Bienvenue sur Radio France Internationale. Il est 22h à Paris, 20h en temps universel et c'est l'heure de votre journal en français facile.
Jérôme Bastion.
Et à la une de l'actualité de ce jeudi 18 juin, un sérieux revers de plus pour le président américain Donald Trump, qui entendait suspendre un programme fédéral de protection des travailleurs sans papier, mais la Cour suprême a validé leur statut qui les éloigne d'un risque d'expulsion. Le 80e anniversaire de l'appel du général de Gaulle à se soulever contre la capitulation du maréchal Pétain devant l'Allemagne nazie, c'est de Londres que le mouvement de la résistance fut lancé et c'est sur les bords de la Tamise qu'Emmanuel Macron a célébré. Et puis Israël, de plus en plus divisé, voire déchiré sur les projets d'annexion de toute une partie des territoires palestiniens occupés en Cisjordanie, la coalition gouvernementale ne parvient pas à s'entendre sur l'étendue de cette annexion. Washington refuse de jouer les arbitres.
Le journal,
en français facile.
C'est donc un nouveau revers qu'a infligé la Cour suprême au président américain Donald Trump. La plus haute instance judiciaire du pays a en effet invalidé sa décision d'annuler le programme DACA mis en place par l'administration précédente pour protéger près de 700 000 jeunes migrants de l'expulsion. Une décision qui intervient quelques jours à peine après que la Cour a déjà étendu les droits des salariés homosexuels et transgenres auxquels s'opposait le président Trump. Donald Trump qui n'apprécie pas du tout. Correspondance à Washington, Dan Corpet.
Ce sont des décisions politiques horribles, tempête Donald Trump sur Twitter. Et comme s'il s'agissait d'une affaire personnelle, il ajoute « Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la Cour suprême ne m'aime pas ?» C'est par une courte majorité, 5 voix contre 4, que la plus haute instance judiciaire du pays a rendu sa décision sur les Dreamers, ces jeunes migrants arrivés clandestinement sur le territoire lorsqu'ils étaient mineurs. Le chef de la Cour, le juge Robert, un conservateur, a joint sa voix à celle des progressistes. La Cour a estimé que la volonté du président d'annuler le programme DACA était une décision capricieuse et arbitraire. Près de 700 000 jeunes concernés par ce programme vont donc pouvoir continuer à travailler et à étudier légalement sur le sol américain avec un permis de séjour renouvelable tous les 2 ans. Mais cette décision va aussi galvaniser la base de Donald Trump, partisane d'une ligne dure sur l'immigration, et la mobiliser. Le président l'utilise déjà à des fins électorales. Nous avons besoin de plus de justice ou alors nous perdrons notre deuxième amendement, celui qui protège le port d'armes, et tout le reste, votez Trump 2020, a-t-il écrit sur son fil Twitter. Anne Corpet, Washington, RFI.
Et satisfaction, en revanche, comme on l'imagine, de la grande association de défense des droits civiques, l'ACLU. Cette décision de la Cour suprême confirme ce que nous avons toujours su, l'Amérique est leur pays, réagit-elle au sujet des jeunes migrants, donc protégés de l'expulsion par ce programme DACA. Facebook a retiré des publicités publiées par la campagne électorale de Donald Trump qui s'attaquait à l'extrême gauche en affichant un triangle rouge inversé, le symbole utilisé par les nazis pour désigner les prisonniers politiques dans les camps de concentration. « Nous n'autorisons pas les symboles qui représentent des organisations haineuses ou des idéologies haïssables, à moins que ce soit pour les condamner », a justifié le directeur des règlements de la cybersécurité chez Facebook. Et puis l'économie américaine toujours à la peine. La décrue du chômage semble plus lente que prévu aux États-Unis. Malgré la reprise de l'activité, la réouverture de l'économie a toutefois permis à l'industrie manufacturière de renouer avec la croissance en juin. Mais la semaine dernière encore, 1,5 million de personnes se sont inscrites pour la première fois au chômage, un nombre plus élevé que les 1,35 million escomptés par les analystes. Paris et Londres ont célébré ce jeudi 18 juin, bien sûr, le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940, lancé par le général de Gaulle sur les ondes de la BBC, la radio-télévision du Royaume-Uni. Reçu d'abord par le prince Charles, le président français Emmanuel Macron a témoigné la reconnaissance infinie de la République française à Londres, qui abritait alors Charles de Gaulle et était ainsi devenu le berceau de la France libre. Le chef de l'État s'est ensuite entretenu avec le Premier ministre britannique Boris Johnson. Muriel Delcroix y assistait.
À l'honneur lors de cette visite toute symbolique, Londres avait déployé autant de pompes que le permet actuellement le coronavirus. À bonne distance l'un de l'autre, Emmanuel Macron et le prince Charles ont chacun déposé une gerbe au pied des statues du roi Georges VI et du général de Gaulle. Le président français a ensuite remis la Légion d'honneur à la capitale britannique, témoignant de la gratitude éternelle de la République.
Le 18 juin 1940, le Royaume-Uni a tendu à la France libre sa première arme, un micro de la BBC. Les ondes ont alors charrié les mots résolus et l'esprit de résistance de De Gaulle, qui ont comme bâti par-dessus la Manche le pont des réfractaires de la servitude, des obstinés de la liberté.
Le prince Charles a quant à lui appelé à renouveler les liens qui unissent les deux pays dans ces circonstances difficiles.
Gardant en tête les mots du général de Gaulle, l'espérance doit-elle disparaître? Non. Aujourd'hui, monsieur le président, réitérons notre engagement à travailler ensemble pour défendre ce qui nous est le plus cher.
Après cette cérémonie, Emmanuel Macron a rencontré brièvement Boris Johnson à Downing Street. L'occasion pour les deux hommes de saupoudrer un peu d'entente cordiale sur les sujets aigre-doux du Brexit et des mesures de quarantaine imposées par le Royaume-Uni que la France voudrait voir allégées. Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Et puis cette nouvelle encore en une de l'actualité de ce jeudi 18 juin. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé à l'issue d'une réunion des ministres de la Défense de l'Alliance qu'une enquête va être ouverte sur l'attitude extrêmement agressive, avait dit Paris, de la Turquie en mer Méditerranée au large des côtes libyennes, alors qu'une frégate française devait contrôler pour l'OTAN le chargement d'un cargo en provenance de Turquie et soupçonné de transporter des armes vers la Libye en guerre et frappée d'un embargo. Les frégates turques qui escortaient le navire marchand sous pavillon tanzanien auraient armé leur système de défense et mis en joue les militaires français, défendant le fait que l'inspection ne pouvait pas se faire.
Le journal en français facile.
Quels sont les projets du gouvernement israélien vis-à-vis de l'annexion de certains pans du territoire palestinien occupé? L'accord de coalition signé entre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz permet au Premier ministre d'avancer sur ce dossier à partir du 1er juillet, mais les deux partenaires de coalition ne semblent pas en phase sur ce dossier. Une nouvelle rencontre ce mercredi soir entre les deux têtes de l'exécutif a souligné une fois de plus leur divergence, Guilhem Deltay.
C'était la troisième rencontre en l'espace de quatre jours. Benjamin Netanyahou et Yariv Levin, le président du Parlement pour le Likoud, Benny Gantz et le chef de la diplomatie, Gabi Ashkenazi pour Bleu Blanc. Ce mercredi soir, les quatre hommes se sont une nouvelle fois rencontrés pour discuter des projets d'annexion du gouvernement israélien. Ils s'étaient déjà retrouvés pendant plusieurs heures dimanche puis lundi. Au cours de cette réunion, Benjamin Netanyahou aurait présenté quatre possibles scénarios, allant d'une annexion de 30% de la Cisjordanie à celle plus restreinte de quelques colonies. Mais ses partenaires de coalition semblent toujours opposé à ses projets, réclamant notamment de sa part un engagement à mettre en place l'intégralité du plan Trump qui évoque la création d'un État palestinien. Les deux premières rencontres de dimanche et lundi s'étaient tenues en présence de l'ambassadeur américain en Israël, mais les États-Unis demandent désormais aux deux parties de se mettre d'accord. Pour l'heure, les deux partenaires fourbissent leurs armes. Bleu Blanc développe une relation de confiance avec Jared Kushner, l'auteur du plan de paix américain et gendre de Donald Trump. Netanyahou, lui, menace de quatrièmes élections dont Bleu Blanc pourrait sortir perdant. Guilhem Deltay, Jérusalem, RFI.
Et puis en France, ce rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui se penche tout particulièrement sur le racisme contre les personnes noires que Marie Cazadebé a lu pour nous.
Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans l'espace public, les personnes noires subissent au quotidien préjugés offensants et discriminations. Des difficultés d'accès au logement, à l'emploi, une sous-représentation à la télévision, un rôle de victime dans les manuels scolaires. Ce qui s'exprime en France, selon le rapport, c'est un racisme cru, animalisant et violent, construit par opposition à une norme blanche. Le document souligne un paradoxe entre l'opinion des Français, pour qui la minorité noire est la mieux acceptée, et les faits, et se penche aussi sur les racines de ce racisme. Elles sont pour la Commission historique. Les traites négrières, l'esclavage et la colonisation ont forgé un racisme dit d'exploitation. Ils nourrissent encore aujourd'hui une série de préjugés, autant sur les capacités intellectuelles que physiques des personnes noires, et un lien presque automatique avec l'ailleurs, l'étranger. Pour lutter contre ce racisme, la CNCDH recommande aux autorités françaises de mieux analyser les différences de traitement en fonction de la couleur de la peau, notamment dans les services publics, les commissariats et les gendarmeries. De lancer des campagnes de communication sur les stéréotypes ou encore d'axer davantage les programmes scolaires sur les racines multiculturelles de la France.
Marie Cazadebé, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous.
Une semaine d'actualité.